L'Église a voulu, en reprenant la liturgie, nous faire vivre ce samedi saint dans la grande pauvreté du mystère du sépulcre. Anciennement, on avait, dès le samedi saint au matin, la cérémonie que nous aurons ce soir, de sorte que l'Alléluia était déjà chanté. Ce qui faisait que le mystère du sépulcre était très peu vécu. Il y avait une hâte, ça pouvait se comprendre comme ça, une hâte extraordinaire. Vite, vite, hein, la résurrection. Parce que c'est un peu insupportable, ce mystère du silence du sépulcre. Pour nous, c'est rude, hein, pas de présence eucharistique. Alors on voudrait bien demander au sacristain, comme Marie de Magdala, où l'a-t-on mis ? Donnez-moi les clés, j'ai envie d'y aller. C'est compréhensible pour notre cœur humain, notre sensibilité et notre dévotion. C'est très compréhensible, ça. Et le sacristain doit dire, « Ah, samedi saint, allez à la chapelle, priez devant la croix. Priez le tabernacle, porte ouverte, la pierre est roulée. » Il n'y a rien. C'est vrai, c'est rude. C'est pour que nous comprenions mieux, d'une part, ce don merveilleux de l'Eucharistie. On s'habitue. Tous les matins, nous venons ici à la chapelle. On fait une géniflexion sérieusement, mais on n'y pense peut-être pas assez. Il est là qui nous attend. Et c'est vrai. La présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui nous attend. Le pain, il attend d'être mangé. Bien évident, ça n'a pas d'autre signification. On ne garde pas le pain pour garder du pain. Le pain, il est fait pour être mangé. Et Jésus, quand il est dans l'Eucharistie, il est fait pour être mangé. Que nous le recevions, que nous soyons là tout entiers pour lui, que nous vivions vraiment de son amour, et pour vivre de son amour, que nous le recevions avec amour, en sachant que c'est lui qui nous transforme en lui. Mais il nous attend. La présence de l'Eucharistie est une attente. Une attente par rapport à chacun d'entre nous, une attente aussi par rapport au mystère du retour du Christ, par rapport au mystère de la gloire. C'est le viatique. C'est un passage. Nous, nous regardons beaucoup trop. Jésus demeure dans le tabernacle, il demeure. Hein. Voyez bien ce que Platon dit, hein. Vous vous souvenez, Estia, hein. La substance vient de Estia, la déesse qui demeure dans la maison. C'est évident, c'est un mythe, je suis tout à fait d'accord, ne mêlons pas le mythe et notre foi, mais c'est très beau, demeurer. Est-ce que Jésus est fait pour demeurer dans le tabernacle? Non. C'est le grand mystère de la sacramentalité. Il n'est pas fait pour demeurer. Il demeure là pour nous, en attente de nous, en attente d'être reçu au plus intime de notre cœur, en attente du retour dans la toute-puissance glorieuse. Alors on s'habitue. Et on dit, c'est très bien, il est là. Et quelquefois même, on a presque une espèce de possession. Il est à nous. C'est vrai, il est à nous. Il est là. Il est là pour nous, il est à nous. Non, il est là pour nous, mais toujours donné gratuitement. Nous n'avons pas à mettre notre lourde main comme si nous possédions l'Eucharistie. Non. Jésus ne peut pas être possédé, même pas par Marie. Et dans le mystère de l'Eucharistie, il est donné sous cette forme sacramentelle pour être justement celui qui se donne gratuitement, qui est pur don sous le symbolisme de l'aliment, sous le symbolisme du pain. Pour que nous puissions revenir à la limpidité du mystère de l'Eucharistie. Chaque année, il y a la scène que nous vivons le jeudi saint, et puis il y a ce samedi saint, qui est presque en antithèse du jeudi saint, si vous avez une pensée hegelienne. C'est en antithèse du jeudi saint, c'est l'absence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est ça que l'Église veut nous faire comprendre, pour que nous comprenions mieux le jeudi saint. Nous comprenons toujours beaucoup mieux, nous, l'aspect négatif. Il ne faut jamais l'oublier au point de vue éducatif. Il ne faut pas trop insister, mais l'aspect négatif nous touche davantage. Et nous comprenons que cet aspect négatif est là pour nous apprendre quelque chose d'infiniment plus grand. Ce don que Jésus fait dans ce pain et dans ce vin. Allons un peu plus loin. L'absence de Jésus dans l'Eucharistie, est-ce que ce n'est pas pour que nous soyons plus proches de Marie ? Je vous ai déjà dit, il y a cette économie divine étonnante dans le mystère de la très sainte Trinité. Ces grands effacements. J'aime mieux dire ça que l'humilité, puisque au sens strict, il n'y a pas d'humilité en Dieu. Il y a des effacements. Le Père s'efface devant le Fils. Et le Fils s'efface devant l'Esprit Saint. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on s'efface devant lui. Il faut aimer beaucoup et en acte. Parce que dès qu'on n'aime plus, immédiatement on passe devant. Ça se sent tout de suite dans les foyers, ça. Ou dans les amitiés, ça revient au même. De voir si l'épouse s'efface devant l'époux, si l'époux s'efface devant l'épouse, si la femme s'efface devant l'homme, ou si elle revendique en disant « après tout, on ne m'a pas assez regardé, et c'est pourtant moi qui fais marcher la machine, et c'est moi qui suis présent. » Alors à ce moment-là, on ne veut plus ces effacements. L'effacement ne peut se faire que par un très grand amour. Quand il y a un très grand amour, on s'efface. Et on est joyeux de s'effacer. Le Père s'efface devant le Fils. Eh bien, il y a un grand effacement du Père à la croix. Pour laisser toute la place à Marie. J'en suis persuadé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce grand effacement du Père, ce grand silence du Père, pour que toute la présence soit laissée à l'Esprit Saint et à Marie. L'Esprit Saint est donné à la croix, et l'Esprit Saint se sert de Marie. Et pour pour que nous découvrions cette nouvelle présence. Le Père s'efface. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose d'analogue aujourd'hui dans l'économie divine? La liturgie nous enseigne. Et la liturgie nous aide à comprendre cette pédagogie divine, cette économie divine. La manière dont Dieu nous éduque, la manière dont l'Esprit Saint nous éduque. Pourquoi ce samedi saint, les tabernacles sont vides? Pourquoi l'Église nous laisse-t-elle dans ce désarroi? C'est à cause de ce désarroi qu'on va demander au sacristain. Non, c'est à cause de ça, pour avoir quand même quelque chose qui nous fixe. Ça nous aide tellement de pouvoir faire oraison auprès de Jésus dans le tabernacle. Je sais très bien que ça ne supprime pas toutes les imaginations, ce serait trop beau, mais ça polarise, ça oriente, ça nous aide. Surtout si on est seul et qu'on peut être tout proche du tabernacle. Pourquoi aimons-nous les expositions du Saint-Sacrement et faire oraison auprès de Jésus exposé? C'est pour polariser notre sensibilité. C'est pour que nous soyons plus orientés vers cette présence qui se donne selon un mode sensible. Et si cette présence se donne selon un mode sensible, c'est justement pour nous aider. Une manuduktio, hein. C'est une manière de nous conduire vers le mystère. Parce que nous sommes des êtres sensibles, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de signes. Nous avons besoin de donner la main. Nous avons besoin du contact. Et un contact sensible pour nous conduire vers quelque chose d'invisible. Si on reste uniquement en contact sensible, vous savez, on est en présence de mains un peu lourdes. Quelquefois, ça peut arriver, un peu gluante, ça peut arriver. Alors, on se retire instinctivement, parce qu'on n'aime mieux pas trop se laisser contaminer. Mais autrement, le signe, il conduit vers quelque chose d'invisible. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être conduits vers quelque chose de plus grand. Notre sensibilité, elle nous aide, elle doit nous aider, mais on ne doit pas s'y arrêter. Si on s'y arrête, c'est une pesanteur, juste l'inverse de ce qu'elle devrait être. Vous voyez, comme la sensibilité est spiritualisée par l'art. Et comment l'art n'est vrai que lorsque la sensibilité est présente. Parce que l'art réclame la sensibilité. Une sensibilité complètement assumée par quelque chose qui est spirituel, une intelligence. Il y a des sensibilités intelligentes. Les sacrements sont des sensibilités intelligentes, d'une intelligence de sagesse divine. Pour mieux comprendre le mystère de l'Eucharistie, Dieu permet ce moment, ça ne dure pas, mais c'est quand même quelque chose de rude. Pour que nous comprenions mieux cette miséricorde infinie du Christ de nous donner les sacrements, c'est une miséricorde infinie de Jésus, parce qu'il sait que nous avons besoin de quelque chose de sensible. C'est l'art de l'Esprit Saint. Et c'est un art prodigieux de l'Esprit Saint, parce que c'est très intelligent. L'intelligence des sacrements, de ces signes divins, cet art de l'Esprit Saint, qui nous conduit vers quelque chose qui est le mystère, qui est le mystère d'amour. Mais les sacrements, justement, sont des signes si nous nous arrêtons au sacrement, ça devient une pesanteur qui n'est plus divine. On retombe dans une dévotion, quelquefois trop affective, et qui n'est pas assez divine. Une dévotion qui a la place de nous conduire vers le mystère et vers la contemplation du mystère peut nous arrêter. On matérialise le symbole, on matérialise le signe. Et matérialiser le signe et le symbole, ce n'est pas dans l'intention profonde de la sagesse divine, de l'économie divine. Je crois qu'on doit être attentif à cela aujourd'hui. Si nous voulons vivre ce samedi saint d'une façon plénière, pas uniquement en faisant le ménage, parce que dans tous les bons couvents, le samedi saint, tous les meubles sont transportés de droite et de gauche pour faire le ménage. Alors, très bien, alors vous ne vivez pas du sépulcre, hein, vous vivez de tout le ménage. Je sais bien qu'il faut le faire et que c'est un jour merveilleux pour cela, parce que ça ne nous préparera pas, que tout doit être magnifique. Mais si on fait le ménage, ce n'est pas pour tuer le temps. Pour un but très pratique, que ce soit propre, tout simplement, et que ce soit vivable. Alors on profite du samedi saint. J'ai vu ça dans toutes les communautés religieuses. C'est curieux. On a peur du silence du samedi saint. On en a peur. Alors ce jour-là, tout le monde est zélé, tout le monde s'inscrit, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Les autres jours, non. Mais le samedi saint, c'est une générosité extraordinaire. La générosité de Marie de Magdala. Je crois qu'on est en présence de ça. Elle s'est beaucoup agitée, elle. Alors, je suis sûr, en respectant le sabbat. Mais la tête a marché, hein. L'imagination a marché. C'est une manière de respecter le sabbat, si vous voulez, visiblement, extérieurement, mais en même temps, on pense à tant 36 autres choses. C'est le ménage de la tête. Alors là, vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est des imaginations multiples. C'est vrai, Marie de Magdala a vécu de cette manière-là. Si on a le temps, on verra ça demain, parce que c'est tellement beau, ça. Ou ce soir, parce qu'on peut voir, hein, Marie de Magdala comme une préparation au mystère de la résurrection. L'Église, dans sa sagesse, ne nous a pas dit « samedi saint », ménage dans tous les couvents, dans toutes les maisons, n'est-ce pas? Enlevez toutes les poussières, profitez-en beaucoup, parce que ce jour-là, on ne sait pas quoi faire. Non, non. L'économie divine, l'effacement de l'Eucharistie. J'allais dire, c'est le seul jour où on a le droit d'entrer dans cet effacement de l'Eucharistie. Et non seulement on a le droit, mais on a le devoir d'entrer dans ce vide, dans cet effacement. C'est grand. L'effacement de l'Eucharistie, c'est pourquoi. Les effacements ne se comprennent que dans l'amour. Ils ne peuvent se comprendre que dans l'amour. Ne peuvent pas se comprendre autrement. Autrement, c'est un vide et c'est purement négatif. Tandis que qui dit effacement, c'est laisser passer l'autre devant. Et on laisse l'autre passer devant. Et on veut qu'il passe devant. Et on veut attirer l'attention sur lui. Cet effacement de l'Eucharistie, c'est pour que nous puissions regarder plus attentivement Marie. Vivant dans ce mystère de compassion, du mystère du sépulcre. Vivant dans sa foi, son espérance et son amour de la présence du cadavre du Christ. Vivant dans sa foi, son espérance et son amour à cette descente de l'âme de Jésus aux enfers. On n'y pense pas beaucoup à la descente de l'âme de Jésus aux enfers. C'est pourtant dit dans le credo. Ça fait partie de notre foi. Et notre foi implique un ordre de sagesse divine. Et donc, on n'a pas le droit de supprimer quelque chose. On a parfaitement le droit d'aimer mieux tel ou tel mystère. Et de le contempler davantage. Je ne vous demande pas de contempler tous les jours, tous les matins, dans votre raison, la descente de Jésus dans les enfers. Mais le samedi saint, oui. J'y avais pensé ce matin, j'en suis sûr. Hein. Le samedi saint, la descente de l'âme de Jésus aux enfers. Et que vous avez fait oraison près de Jésus, son âme descendant aux enfers. Vous avez fait oraison auprès de Marie, sûrement. Vous avez fait oraison près de la blessure du cœur, sûrement. L'oraison de l'âme de Jésus descendant aux enfers, ça, on l'oublie. C'est pourtant la grande miséricorde sacerdotale de Jésus. Il n'oublie personne invité aux noces. Vous voyez, ils sont morts depuis très longtemps. On les oublie. Pas du tout. Il n'y a pas de temps pour Jésus dans son âme vivant pleinement du mystère du Père. Puisque tout est pris dans l'amour et tout est pris dans la miséricorde. Je crois que nous pouvons dire cela, que l'Église a voulu rétablir ce silence du samedi saint pour que nous puissions regarder d'une manière plus profonde plus aimante, Marie, vivant le mystère du sépulcre. Marie, liée à la blessure du cœur de Jésus. Marie, liée à son âme qui descend aux enfers. L'Eucharistie peut s'effacer devant Marie. C'est beau, ça. C'est étonnant, dans l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est assez bouleversant, du reste. C'est vrai. La parole de Dieu s'efface devant la présence eucharistique. Ça, oui. Toute parole divine est ordonnée à l'Eucharistie. Et donc, toute parole divine est ordonnée à ce silence de l'Eucharistie. Et la parole se tait devant la présence silencieuse de l'Eucharistie. Et cette présence silencieuse de l'Eucharistie, c'est pour une foi vivante et aimante. Vous savez bien, dans l'ordre de l'éducation, il faut beaucoup aimer pour que les silences éduquent. Un professeur qui n'est pas nécessairement beaucoup aimé hein, comme professeur, un professeur qui voudrait donner son cours en disant « je vais d'abord vous éduquer par le silence », ça ne durerait pas très longtemps. Il faut saisir, capter par la parole. C'est la première éducation, premier enseignement. Une mère enseigne par le silence. Un ami enseigne par le silence. Un époux. Il faut beaucoup d'amour pour comprendre comment le silence éduque. L'Eucharistie est donnée aux vivants qui aiment. C'est le sacrement de l'amour. Et c'est pour ça que l'Eucharistie nous éduque par ce silence d'amour qui réclame notre silence. Et ce mystère de l'Eucharistie s'efface devant Marie. C'est la présence du corps du Christ, du cœur blessé de l'agneau, qui s'efface devant celle qui est toute unie à l'âme de Jésus, devant celle qui est une dans l'amour avec son bien-aimé. Et le silence du corps du Christ peut s'effacer devant cette présence encore silencieuse, tout aimante, tout intérieure, qui est la présence de Marie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le grand samedi. C'est le grand samedi. Tous les samedis sont consacrés à Marie. Nous retrouvons la dévotion de la Vierge Marie. Eh bien, ce grand samedi, il est consacré à Marie. D'une façon très particulière. Et nous devons demander à Marie, instrument de l'Esprit Saint, de nous éduquer à vivre ce samedi saint. Et de le vivre en grande intensité d'amour avec elle. Par là, l'Eucharistie nous conduit à vivre directement le mystère. L'Eucharistie, en s'effaçant, nous met en présence de celle qui a vécu ce mystère du samedi saint dans une telle intensité d'amour et une telle simplicité. Dans sa foi, son espérance et son amour. Marie est le tabernacle vivant et éternel, à la différence du tabernacle qui contient les saintes espèces. Le tabernacle qui est le mystère de sa maternité. C'est le plus beau des tabernacles. C'est le tabernacle, sa maternité divine. Le lieu de repos, le lieu de l'amour, le lieu de la croissance, le lieu de la joie, le lieu de la souffrance. C'est le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme, ce tabernacle qui est le cœur brûlant de Marie, qui est son corps. L'Eucharistie laisse passer devant ce tabernacle d'amour pour nous. Pour que notre vie de foi, d'espérance et d'amour s'exerce sous le souffle de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous en avons besoin et nous devons demander à l'Esprit. Permettre cet exercice divin de la foi, de l'espérance et de l'amour avec Marie, auprès d'elle et en elle. Alors, si nous faisons cela, nous serons dans une disposition parfaite vivre tout de suite du mystère de la résurrection. Nous ne perdrons pas de temps. Nous ne serons pas repliés sur nous-mêmes, mais nous serons tout entiers attirés par Marie et par elle dans cette attitude de disponibilité. Marie, c'est cette disponibilité, le mystère du sépulcre. Pour Marie, c'est le mystère de la disponibilité d'une façon étonnante. Voyez, si Marie est déjà si disponible dans le mystère de l'Avent. Et c'est vrai, c'est un des aspects les plus étonnants du mystère de l'Avent. Quand Marie demande comment cela peut-il se faire, l'ange lui dit, tu n'as qu'à t'abandonner. Et donc tu n'as qu'à rester dans cette disponibilité absolue. C'est ça que lui dit l'ange, de vivre à l'ombre de la toute-puissance de Dieu. Et donc de vivre dans cette disponibilité absolue. Eh bien la disponibilité de Marie dans ce mystère du sépulcre va encore beaucoup plus loin. Elle n'a plus rien à faire. Plus rien du tout. Elle est mise à la retraite, vous voyez. C'est vrai, sa mission est terminée. La mission merveilleuse qu'elle devait faire est terminée de cette manière extérieurement si tragique et intérieurement si grande dans l'unité avec Jésus. Je sais très bien qu'au moment même où sa mission se termine, cette première mission, il y en a immédiatement une autre qui commence. Et cette seconde mission, c'est auprès de Jean. C'est d'être la mère spirituelle divine de Jean. Et il n'y a pas eu de temps d'arrêt. On n'a pas dit à Marie, 3 jours au désert après le labeur, hein, on vous accorde 3 jours au désert pour vous détendre un peu, pour vous remettre un peu. Non, on a devancé l'heure pour que tout de suite, Jésus étant mort, Marie est prise par Jean. Marie ne retourne pas chez elle. Elle n'a plus de chez elle. Du temps de Jésus et du temps de la prédication de Jésus, son lieu c'était Jésus. Jésus repose dans la terre. Son lieu, c'est le cœur de Jean. Elle est passée d'un moment à l'autre, d'une maternité à l'autre maternité, sans intervalle. Alors on peut dire que ce temps du sépulcre, c'est l'avant pour Marie de l'exercice divin de sa maternité auprès de Jean. Jean est dans un tel état de tristesse que Marie comprend très bien qu'il faut respecter cette tristesse de Jean. Et Marie connaît une telle tristesse que Jean comprend très bien qu'il faut respecter cette tristesse de Marie. Il y a un respect mutuel de ces deux grandes tristesses. Et c'est pour cela que Marie est dans cette attitude de pure attente. Elle est celle qui n'a plus de mission visible, temporelle, à réaliser. Tant que Jésus était sur la terre, Marie restait sa mère. Et vous savez bien, quand un homme souffre, même s'il a quitté sa mère pour faire une œuvre qui est son œuvre, quand il souffre, il redevient le tout petit enfant de sa mère. Et c'est pour ça que Jésus, sur la croix, est dans une dépendance plus grande à l'égard de Marie qu'à Bethléem. Dépendance dans sa chair et son sang qu'à Bethléem. Parce qu'il est dans cet état de petitesse et de souffrance. Marie a vécu cette proximité avec Jésus jusqu'au bout. Et au moment où Jésus meurt et qu'il est remis en terre, sa maternité divine auprès de Jésus cesse. Quand le Fils meurt, la mère meurt dans son cœur de mère. Selon la maternité, selon la chair et le sang, quelque chose demeure au plan spirituel, c'est sûr. Quelque chose demeure au plan divin, c'est bien évident, et c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais il y a quand même une brisure, et une brisure qui se fait sentir dans la chair et le sang, et dans la sensibilité. Il y a une grande brisure. Et Marie, immédiatement, doit vivre de cette autre maternité auprès de Jean. Et cette autre maternité auprès de Jean, elle commence par cette attitude de remise totale de tout entre les mains du Père. Chaque fois que Dieu nous demande de passer d'une fonction à une autre fonction, chaque fois qu'il y a une étape dans notre vie, la sortie du noviciat, c'est une étape. La prise d'habit, c'est une étape. La préparation au sacerdoce, être envoyé en mission, c'est une étape. Chaque fois que Dieu nous met devant une nouvelle étape, et pour Marie, c'est une nouvelle étape. Elle est d'importance. Chaque fois que Dieu nous met devant une nouvelle étape, il faut à ce moment-là que de nouveau nous entrions dans ce moment de remise totale de tout entre les mains du Père. C'est la première chose que Dieu nous réclame. Et c'est pour ça que ce qu'il y a de plus intime dans l'âme de Marie, vivant le mystère de la compassion à l'égard du sépulcre. Ce qu'il y a de plus grand et de plus profond dans l'âme de Marie, c'est vraiment cette attitude d'abandon. Dans la prière, dans la contemplation, mais c'est une attitude d'abandon extrême. Un abandon bien plus intériorisé que celui de l'avant. Un abandon qui fait que Marie a tout remis au bon plaisir du Père sur elle et sur son fils bien-aimé. Vous voyez, si l'ange a donné à Marie cette directive de la remettre dans cette attitude de soumission et d'abandon à l'ombre de la toute-puissance de Dieu, à l'ombre de l'Esprit-Saint, je suis sûr que Marie, par le coup de lance, vécue, Marie passant de cette maternité selon la chair et le sang à l'égard de la tête, à une maternité toute nouvelle, une maternité mystique, une maternité toute divine, parole de Jésus. Marie passant de cette étape à l'autre étape, Marie entre dans une docilité à l'égard de l'Esprit Saint. C'est ça l'abandon. Pour ne jamais résister à l'Esprit Saint. Pour le laisser toujours passer devant. Plus Dieu nous pousse, exige de nous de passer devant, plus nous devons comprendre que nous devons nous effacer totalement pour ne jamais faire quelque chose qui est nous. Au contraire, avoir le souci et le désir de faire uniquement la volonté du Père. Marie, dans ce mystère du sépulcre, remet tout entre les mains du Père. Tout. Elle remet tout dans la blessure du cœur. Elle comprend que tout passe par le cœur blessé de l'agneau. Et elle en est dans la joie. C'est la plus grande joie pour elle. Et Marie comprend qu'elle doit se remettre entièrement à cette dépendance à l'égard de l'Esprit Saint. Mais plus on est abandonné, plus on est soumis au bon plaisir de Dieu, plus l'Esprit Saint réclame de nous des initiatives d'amour pour que tout soit brûlé par l'amour. Quand il s'agit du mystère du sépulcre, il n'y a eu aucune initiative extérieure. Marie a été plongée dans une prière intérieure. La liturgie du sépulcre est très silencieuse, hein, quand elle est vécue dans le cœur de Marie. Elle est totalement silencieuse. Tout s'est fait à la hâte à cause du sabbat et du respect du sabbat. Et tout est demeuré dans le silence du cœur de Marie et dans le silence de la terre. Et Marie vit de ce mystère. Elle s'appuie sur la dernière révélation de Jésus, sur les dernières paroles de Jésus crucifié, de sorte que je crois que nous pouvons dire que la seule lumière que nous avons pour entrer dans ce silence de Marie, ce premier silence, la seule manière pour nous d'entrer dans cette contemplation, c'est de regarder les sept dernières paroles de Jésus. Elles sont inscrites dans le cœur de Marie, puisqu'elles sont pour elle. Elles sont inscrites dans le cœur de Marie. Et c'est la seule lumière dans cet abandon total. C'est la seule lumière dans cette soif du retour du Christ, dans cette soif de la résurrection, dans cette soif que Jésus apparaisse aux yeux de tous comme le victorieux dans l'ordre de l'amour. C'est cela que Marie nous enseigne, vous voyez, aujourd'hui. Si l'effacement de Jésus dans sa présence eucharistique est si lourd à porter aujourd'hui, c'est pour que nous allions plus proche du cœur de Marie et que nous lui disions que c'est elle qui doit nous éduquer. C'est elle qui doit nous apprendre à vivre ce silence. C'est la première chose qu'une mère apprend à ses tout-petits, c'est de vivre de ce silence. Le silence du repos du cadavre de Jésus. Ce silence de sa miséricorde auprès de tous ceux qui sont aux enfers. Il faut que tout soit vécu avec elle. Ces dernières paroles, Marie les reçoit et Marie en vit. Et c'est pour cela que pour entrer dans ce silence du cadavre, ce silence du samedi saint, pour l'Église d'aujourd'hui, il faut que nous fassions cet effort divin de nous purifier à travers les sept paroles de Jésus, de nous vivifier à travers ces sept paroles de Jésus. C'est infini, hein, ces sept paroles de Jésus. C'est le testament. Alors, il faut que nous ayons cette simplicité avec Marie, de nous approcher d'elle, de nous mettre tout proche d'elle, de faire comme Jean à l'égard de Jésus. Et de vivre cette parole de Jésus, de les vivre avec tout ce que ça implique de brûlure intérieure, de flamme, de feu, tout ce que ça implique de d'unité avec Jésus. Tout ce que ça exige de nous d'attention dans la foi, l'espérance et l'amour. Parce que cette parole de Jésus, on peut les regarder de diverses façons, n'est-ce pas ? On peut méditer. Quand on prêche, on est bien obligé d'exprimer, de méditer. Mais quand on vit dans le silence de l'horizon, on dépasse cette méditation pour entrer dans le contact direct. Par la foi, l'espérance, l'amour. Entrer dans ce contact direct pour vivre du silence de Jésus qui a voulu vivre cette séparation provoquée par le péché entre le don d'amour que le Père nous fait et de fait cette manière de le recevoir et de le recevoir dans le silence. Demandons à la Vierge Marie la grâce de vivre pleinement ce samedi saint auprès d'elle. Elle a quelque chose à nous dire, elle nous attend. Vivre avec elle, en elle, chacune de ces paroles divines de la croix, pour nous aider à en vivre, pour nous aider à les aimer, pour nous aider à découvrir toute la richesse infinie de ces paroles, et découvrir tout l'amour du Christ, tout l'amour du Père à travers ces paroles, qui doivent nous transformer, qui doivent nous permettre à recevoir avec toujours plus d'amour cette jalousie du Père sur son Fils et sur nous. essayer ce matin d'entrer dans le mystère du sépulcre, tel que Marie a dû le vivre. C'est toujours avec beaucoup de pauvreté et d'humilité que nous devons essayer de pénétrer dans ce que l'Écriture enveloppe d'un très grand silence. Il y a les silences de Dieu.